Racines et patrimoine en pays de Haute-Sarthe. Un magazine sur le patrimoine, les coutumes et les traditions. Une émission coproduite par Radio Alpes-Mancelles 106.3 et Fréquence Sillée 97.9. En partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe.
Mardi Gras est mort, il faut l'enterrer. Sa femme qui pleure, faut la consoler. En une, en deux, en trois, saute Mardi Gras. Tape dur, tape mou, on ne veut plus d'hiver chez nous. Il y a déjà les fleurs qui sortent, le printemps frappe à la porte.
Serge Bertin, ethnologue, est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux traditions et au langage en Sarthe. Il a identifié au cours de ses travaux de recherche certaines pratiques et fêtes locales. En Sarthe, le carnaval était la fête la plus intense, temps fort de l'année.
Serge Bertin, donc en Sarthe, comme ailleurs, il y a des traditions qui restent anciennes, mais aussi qui existent toujours aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir là maintenant. Carnaval, donc la fête la plus importante pour les Sartois. Donc on le voit encore aujourd'hui, qui est encore bien vivante dans les campagnes, dans les villes. Est-ce que tu pourrais rappeler un petit peu le déroulement de ces jours de carnaval?
Alors donc oui, carnaval. Il faut, me semble-t-il, comprendre carnaval dans la perspective là encore du calendrier liturgique. Carnaval, c'est les derniers jours avant l'entrée en carême. Or, de nos jours, l'entrée en carême, on n'y prend pas garde. Autrefois, c'était sévèrement contrôlé par l'Église, justement. Ça voulait dire que pendant une quarantaine de jours, il n'était pas question de manger gras, de manger de la viande et de s'amuser. Dès lors, les quelques jours qui précédaient l'entrée en carême permettaient aux gens de se défouler un peu à l'avance, c'est-à-dire d'en prendre le maximum. Et on les appelait ces derniers jours, cette dernière semaine avant l'entrée en carême, on les appelait les jours gras. Alors, il y avait le jeudi gras, il y avait le dimanche gras, le lundi gras. Qu'est-ce qu'on y faisait? On faisait des défilés, les gens se masquaient, on disait que c'était des goules de masques qui se promenaient dans la campagne, hein, et il y avait on faisait en quelque sorte les fous, il y avait assaut de rivalité. Assaut d'adresse, et parmi ces fêtes, ces petits moments des Mardi Gras où on s'amusait à fond, en attendant le dernier jour qui était le Mardi Gras, il y avait par exemple défilé, mais aussi on s'occupait d'arracher le cou de l'oie, il y avait la décollerie, la décollation de l'oie.
Alors justement, cette décollation de l'oie, je vous propose d'écouter un extrait d'un enregistrement du père Géret, dont c'était à Dolon, qui raconte comment se passait la décollation de l'oie du côté de Saint-Mexan.
On déguise à carnaval.
Oui, oui. Ici, on décollait pas l'oie, non? Vous n'avez pas fait la décollation de l'oie, donc?
Il l'a fait à Saint-Vincent, moi.
Où
c'est
ça?
Il avait décollé.
Où voilà.
À Saint-Vincent.
À Saint-Vincent?
Oui, à Saint-Mexan.
Saint-Mexan,
oui.
Ouais.
Oui, il y avait des gens qui avaient essayé, puis moi, j'avais mon vélo, j'étais à roue libre. Ben, puis j'étais habitué, hein.
Alors, vélo. Ah, vous avez décollé
oui,
l'oie?
Oui,
vous...
oui, après, on a mangé au restaurant à Saint-Vincent, que ouais. Là, à fond, oui. Oui.
Et comment ça se passait, la décollation de l'oie? Il y avait combien de personnes à faire ça?
Oh, mais il y avait pas mal, hein. Oui, oui.
Et c'était à pied, en vélo, cheval?
Oui, en vélo.
En vélo?
Mais quand on était le machin, il dit, ben, faut le petit bout, puis faut la pièce à patate, ça tient, hein, oui.
Ça tient?
J'avais conçu que tu vois, le bout, oui.
Et la bête, elle tenait longtemps?
Hein?
Et la bête, elle tenait longtemps? Le cou?
Ah, ben, ça tenait, ben, il y a déjà tiré dessus, mais il dit, c'est dur à tirer, hein,
ouais. Oui. Et ça durait combien de temps, ça?
Puis il y avait déjà trois, quatre, pensé quand j'ai pensé.
Ah, ouais?
Puis quand j'ai pensé, ben, l'arrache, ça avait été fini, oui.
Alors, vous avez gagné?
Oui, j'avais gagné.
Et vous avez fait quoi après de l'oie?
On l'a mangé au restaurant.
Oui, tous ensemble?
Oui, après, oui.
Ouais.
Oui.
Et c'était qui les gars avec vous qui faisaient ça?
Ben, les gars, ça me semble, partout comme ça, que des alentours.
Ouais.
Oui. Mmh. Oui.
Et c'était quand ça? C'était un carnaval, ça?
Oui, oui.
Ouais.
Mmh. Oui, oui. Oui, oui.
La décollation de l'oie, parce que moi, j'ai des photos de ça. Vous n'étiez pas déguisé pour faire ça? Vous n'étiez pas déguisé?
Ah non, c'est pas dire, non.
Non. C'est dans un champ que ça se passait?
Oui, oui. Hein?
Dans un champ?
Non, dans les rues.
Ah, dans les rues de la
oui.
commune?
Oui.
Ah, dans la rue de la commune, ils avaient tendu sûrement un fil en travers de la route?
Oui, un fil, puis ça y est.
Et puis accroché la bête. Oui. Elle était encore vivante, la bestiole, non?
Ah non.
Ah, elle était morte.
Ah non, pauvre bête.
D'accord, elle était morte. Oui.
Nous venons d'entendre donc la décollation, une explication de la décollation de l'oie par le père Jérôme Delon. Si vous avez bien écouté ce personnage, qui n'est pas facile à décrypter toujours, parce que c'est quand même quelqu'un qui parlait bien parlait de chez nous.
Il parle de chez nous, là, oui.
Voilà.
Et puis assez vite.
Et assez vite, oui, ça rigole pas. Donc, il nous parle de la décollation de l'oie à bicyclette. Il faut savoir que dans un temps plus reculé, ça se faisait à cheval, voilà. Alors, pendant ces fêtes de carnaval, il y avait un jour particulier où il y avait le bal avec le roi, la reine, etc., où on brûlait carnaval. Et si je me souviens bien, c'était ce même jour-là où il était question, dans certaines communes de la Sarthe, de cette danse de la bidoche. Alors, Serge.
Ah, la bidoche. Déjà, le mot, hein, il est un peu, il intrigue. Hein. Alors, aucun rapport avec la viande, avec l'argot. Hein. Bidoche, ça venait. Enfin, tout au moins, l'argot bidoche a la même source linguistique que la bidoche de chez nous, c'est-à-dire que ça vient de cheval. Dans l'argot, la bidoche était de la mauvaise viande, c'est-à-dire de la viande de cheval, de réforme. Ici, la bidoche, c'est un petit cheval, tout simplement. On dirait un bidet, un dada sur mon bidet, hein. Quand il trotte, il fait un P, eh bien, ma foi, la bidoche est un petit cheval, une espèce de petit de bourrin, hoche étant un peu légèrement péjoratif et affectueux. Hein. Donc, c'est les gens du Midi qui ont une danse et un personnage à peu près semblable, les gens de l'Hérault, par exemple, disons du Languedoc en général, l'appellent le petit cheval, le chibalette, hein, le chevalet, le chibalette. Nous, c'est la bidoche. Bon. C'est un cheval. Ou tout au moins un homme qui porte une sorte de masque et de cadre qui évoque un cheval. Et ce cheval est accompagné d'un avoineur, d'un autre homme qui tente d'apprivoiser le cheval. Et entre ces deux personnages, l'avoineur qui tient une corbeille d'avoine et la bidoche, le cheval, se développe une sorte de dialogue chorégraphique, c'est-à-dire un jeu d'attirance et de refus ponctué de sauts qu'effectue l'animal. Ça semble être quelque chose de tout à fait intéressant dans sa formule par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs dans le reste de la France. Il y a un côté rugueux, un côté brutal parfois, qui me paraît tout à fait remarquable. Cette tradition, pour autant qu'on puisse la faire remonter, elle viendrait peut-être de l'ouest de la France, tout au moins. Moi, j'ai trouvé à la fin du 18e siècle, 1780, je crois me souvenir, une tradition semblable qui se trouvait dans la région de Rennes. On l'appelait le bidoche. Et puis, j'ai trouvé au cours du 18e, fin du 18e et début du 19e, puis cours du 19e, cette tradition plutôt en Mayenne, région de Sainte-Suzanne, à la fin du 18e et au début du 19e. Et puis, dans l'ouest de la Sarthe, vers les années 1850-60. Et cette tradition, on la retrouve sous diverses formes, dans l'est de la Sarthe, cette fois-ci, dans la région de Bonnétable, vers les années 1950 environ. Cette tradition a vécu encore largement jusqu'à la fin du XXe siècle. Je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait encore beaucoup d'équipes qui pratiquent la danse de la bidoche, sachant que dans les années 1980-90, j'avais pu réunir, à l'occasion d'une fête, d'une rencontre, réunir à peu près une demi-douzaine d'équipes qui dansaient encore la bidoche. Mmh.
Est-ce que tu peux rappeler peut-être le sens de cette danse? Est-ce qu'on peut avoir un sens particulier?
Ce qui est passionnant dans cette danse, c'est qu'il n'y a pas de sens.
Mauvaise question, alors.
La question de fond. Mmh. C'est, on essaie, nous, de nos jours, de trouver un sens à tout. Mmh. Et alors, il y a un certain nombre d'ethnologues ou un folkloriste important qui a considéré que ces danses dites de cheval jupon, elles correspondaient à une sorte de parodie des tournois qu'auraient créé les paysans pour se moquer ou tout au moins pour imiter les tournois des chevaliers. Donc ça ferait remontrer jusqu'au Moyen Âge.
Oui, c'est un peu
bon,
c'est un peu cavalier quand même.
Tu l'as dit. Il y en a d'autres, il y a même Violette Alfort qui était une personnalité très éminente et très respectable qui considère que c'était un rite païen qui glorifiait la renaissance de la nature. Parce que, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la bidoche, lors du bal de carnaval, elle arrive dans le bal, il y a ce jeu de séduction que je signalais tout à l'heure, sur l'air de tatam, talalala, l'air tra, lalalala, et puis de refus avec la ruade, papapapapam, et la bête ruée, et la danse de bidoche se terminait par la mort de la bidoche. Et elle renaissait au mardi gras de l'année suivante. Et donc Violette Alfort disait, voilà la preuve, sans parler de la bidoche proprement dite, mais de l'ensemble des danses de cheval jupon, voilà la preuve qu'il y a la renaissance à chaque fois du printemps, c'est la nature, c'est une sorte de glorification et d'adoration de la nature. Là encore, on peut, pourquoi pas,
hein. On peut interpréter les choses comme on veut.
Tant qu'on n'a pas trouvé la preuve du contraire, on peut toujours affirmer ce qu'on veut. Et moi, je constate simplement que ça s'est produit à partir du XVIIIe siècle. Est-ce que c'est un événement parisien? On a laissé entendre qu'il y avait eu à Paris, devant le monarque, un certain nombre de manifestations de chevaux qui représentaient des cavaliers. Alors, est-ce que ça a joué? Moi, j'en sais rien. Je préfère dire que je n'en sais rien. Ce que je constate, c'est que les gens ont éprouvé plaisir à la danser, et être danseur de bidoche, c'était vraiment entrer au panthéon des danseurs. Il fallait être un bon danseur, on était respecté. On se souvenait encore, voilà, 10 ans, du gars Uli qui dansait, et quand il dansait, il était beau.
Je vous propose de retrouver justement cette danse de la bidoche, interprétée par la Gouline Sartoise. en 2011. Que reste-t-il de toutes ces traditions de carnaval, les sièges? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout ça?
Lorsque j'étais encore enseignant à la fin du XXe siècle, c'est le siècle passé déjà, ça fait un peu vieux, mais je me souviens que dans le lycée où j'enseignais, il y avait une période dans l'année où tout le monde avait la trouille. C'était mardi gras. Et tout le monde avait, quand j'ai dit tout le monde, le proviseur, les professeurs, les gens du Mans avaient tous très peur parce que c'était le moment où les lycéens allaient mettre la pagaille. Et alors, vous rendez compte, mon pauvre monsieur, on allait jeter jusque des œufs
et
de la farine. Scandaleux. On oubliait de voir ce qui pouvait être balancé dans les restaurants des supermarchés et tout le bazar avec le gaspillage infernal. Mais parce qu'on avait balancé 3 kilos de farine et une douzaine d'œufs, c'était le monde à l'envers. Et je trouve que, en ce sens, Carnaval était une vraie fête. C'était la fête, le moment dans l'année où l'ordre risquait de basculer. Et c'est le sens de la fête traditionnelle. Quand l'ordre risque de basculer, quand les bons bourgeois, enfin j'en suis, hein, on va pas, mais quand les bons bourgeois, on commence à avoir peur d'aller dans la rue, parce que vous vous rendez compte, des petits qui sont masqués, ils vont se moquer de vous, ils vont vous faire peur. Les bonnes gens longeaient les murs en regardant autour d'eux de crainte. Là, c'était une fête merveilleuse. La vraie fête, me semble-t-il, c'est une fête qui menace l'ordre. Sachant que c'est le plus sûr moyen de maintenir l'ordre. C'est paradoxal. Mmh. Mais il y avait un jour dans l'année où on faisait le chambard. Le lendemain, dans le calendrier religieux, c'était les cendres. Hein, c'était le mercredi des cendres, c'est-à-dire que c'était fini la rigole. Eh bien là, on retrouvait aussi l'ordre. Hein. Laissez-moi faire le désordre un jour dans l'année, et après on retrouvera l'ordre normal des choses.
L'ordre, ouais.
Voilà, c'était une espèce de moment de défoulement, un peu comme dans une cocotte minute. Hein. Il y a un moment où il faut que ça jaillisse, et puis après tout revient dans l'ordre. Et je trouve que c'est mignon Halloween, hein, quand les gosses vont que faire semblant de faire peur aux gens, puis vont récupérer leur... Mais c'est tellement puéril, c'est tellement bébête. La fête, la vraie fête, et Carnaval en ce sens, et Mardi Gras, était la vraie fête, a une signification toute différente. Donc je regrette que Carnaval ait disparu, d'autant que je crois que le moment fort dans l'année, on a envie de faire la fête, c'est en ce moment. C'est regarder la nature. La nature est en train de faire la fête en ce moment. Ça jaillit. Les bourgeons commencent à jaillir. On sent qu'en nous, il y a une espèce de vitalité, et c'est le moment où on veut faire la fête. Donc, si j'ai un appel à lancer, rétablissons Mardi Gras dans son sens le plus total. Que Mardi Gras soit le jour de grand foutoir.
Serge Bertin, ethnologue spécialiste des traditions locales et du parler sartois, au micro de Franck Pohu, dans Racines et Patrimoine, un magazine coproduit par Fréquence Sillée, Radio Alpes-Mancel et Le Pays de la Haute-Sarthe. À la réalisation technique, Emmanuel Bouger et Nathalie Lotin.